Deuxième partie, les jeux du diable. Les témoins.
Toute jeunette, et pas plus grosse encore que le pouce, une poire pendait hors de l'espalier. Sur le banc de pierre, trois personnages étaient assis. Le vieux comte de Bouville au centre, qu'on interrogeait, et à sa droite, le chevalier de Villebrême, commissaire du roi. Et de l'autre côté, le notaire Pierre Tesson, qui prenait la déposition par écrit. Le notaire Tesson portait bonnet de clerc sur un énorme crâne en dôme d'où tombaient des cheveux plats. Il avait le nez pointu, le menton exagérément long et effilé, et son profil faisait penser au premier quartier de la lune. « Monseigneur, dit-il avec grand respect, puis-je à présent vous lire votre témoignage ?»«
Faites, messire, faites, répondit Bouville. »
Et sa main se dirigea tâtonnante vers le petit fruit vert dont il éprouva la dureté.
« Le jardinier aurait dû veiller à rattacher la branche, » pensa-t-il.
Le notaire se pencha vers l'écritoire posé sur ses genoux et commença.
« Le 17e jour du mois de juin de l'an 1329, nous, Pierre de Villebrême, chevalier... »
Le roi Philippe VI n'avait pas laissé les choses traîner. Deux jours après l'esclandre d'Amiens et les serments prononcés dans la cathédrale, il avait nommé une commission pour instruire l'affaire. Et moins d'une semaine après le retour de la cour à Paris, l'enquête était déjà commencée.
« Et nous, Pierre Tesson, notaire du roi, sommes venus ouïr... »«
Maître Tesson, dit Bouville, êtes-vous le même Tesson qui se trouvait précédemment attaché à l'hôtel de Monseigneur Robert d'Artois ?»«
Le même, Monseigneur. »«
Et à présent, vous voici notaire du roi ? Fort bien, je vous en complimente. »
Bouville se redressa un peu, croisa les mains par-dessus son ventre rond. Il était vêtu d'une vieille robe de velours, trop longue et démodée, comme on en portait au temps de Philippe le Bel, et qu'il usait dans son jardin. Il se tournait les pouces, trois fois dans un sens, trois fois dans l'autre. La journée serait belle et chaude, mais la matinée gardait encore quelques traces de fraîcheur de la nuit.
« Sommes venus ouïr, ô et puissant seigneur le comte Hugues de Bouville, et l'avons entendu en le verger de son hôtel, si ce non loin le préau clair. »
« Comme le voisinage a changé, depuis que mon père a fait construire cette demeure, » dit Bouville. « En ce temps-là, depuis l'abbaye Saint-Germain-des-Prés jusqu'à Saint-André-des-Arts, il n'y avait guère que trois hôtels, celui de Nesle, sur le bord de la rivière, celui de Navarre, en retrait, et le second séjour des comtes d'Artois, qui leur servait de campagne. Car autour, ça n'était encore que prés et champs. Et voyez, à présent, comme tout s'est bâti. Toutes les fortunes neuves ont voulu s'établir de ce côté. Les chemins sont devenus rues. Jadis, par-dessus mon mur, je ne voyais que des herbages. Et maintenant, par le peu de lumière que mes yeux ont encore, je n'aperçois que des toits. Et le bruit, oh, le bruit qui se fait dans ce quartier, on se croirait tout juste au cœur de la cité. Si j'avais encore un peu d'âge devant moi, je vendrais cette maison et je ferais bâtir ailleurs. Mais en est-il seulement question ?
Et sa main s'éleva de nouveau, hésitante, vers la petite poire verte au-dessus de lui. Attendre la maturité d'un fruit, c'était bien tout le temps d'espérance auquel il osait encore prétendre, et le plus long projet qu'il s'autorisa. Il perdait la vue depuis de nombreux mois déjà. Le monde, les êtres, les arbres ne lui apparaissaient plus que comme au travers d'un mur d'eau. On a été actif et important, on a voyagé, siégé aux conseils royaux et participé à de grands événements. Et l'on finit dans son jardin, la pensée ralentie et la vue brouillée, seule et presque oubliée, sauf lorsque les gens plus jeunes ont à faire appel à vos souvenirs. Maître Pierre Tesson et le chevalier de Villebrême échangèrent un regard de lassitude. Ah, ça n'était pas un témoin aisé que le vieux comte de Bouville, dont le propos s'égarait sans cesse sur des banalités vagues. Or, il était homme trop noble et trop vieux pour qu'on pût le brusquer. Le notaire reprit.
« Lequel nous a déclaré de sa voix les choses ci-après écrites, à savoir que lorsqu'il était chambellan de notre sire Philippe le Bel, avant que celui-ci ne devint roi, il eut connaissance du traité de mariage conclu entre feu Monseigneur Philippe d'Artois et Madame Blanche de Bretagne, et qu'il eut le dit traité entre les mains, et qu'au dit traité il était précisément inscrit que la comté d'Artois irait par droit d'héritage au dit Monseigneur Philippe d'Artois, et après lui à ses oires mâles issus du dit mariage. »
Bouville agita la main.
« Je n'ai point assuré cela. » J'ai eu le traité en main, comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai indiqué à Monseigneur d'Artois lui-même, quand il m'est venu visiter l'autre jour, mais je n'ai point souvenance, en toute conscience, de l'avoir lu.
Et pourquoi, Monseigneur, auriez-vous tenu ce traité devers vous, si ce n'était point pour le lire ?
Demanda le sire de Villebrême.
Pour le porter au chancelier de mon maître, afin qu'il le scellât, car le traité fut revêtu, cela je m'en souviens bien, du sceau de tous les pères dont mon maître Philippe le Bel était en tant que premier fils de la couronne.
Ceci est à noter, Tesson, dit Villebrême. Tous les pères ont apposé leur sceau, sans même avoir lu la pièce. Monseigneur, vous saviez bien que l'héritage d'Artois y était assuré au comte Philippe et à ses Oirmales.
Je l'ai ouï dire, répondit Bouville. « Et ne puis rien certifier d'autre.